OM pour la suite des RFI Matin.
Merci Arthur Ponchelet, à tout à l'heure.
OM que l'on va retrouver dans un...
Merci Arthur Ponchelet, je suis là. Et oui, je suis là Arthur, merci beaucoup, à tout à l'heure et tout de suite les sports. Bonjour Baptiste Leduc.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
En tennis, l'aventure australienne s'arrête pour 11 jabeurs, éliminés au troisième tour de l'Open d'Australie.
Elle n'était pas favorite, la Tunisienne, contre Emma Navarro, 8e joueuse mondiale. Mais elle a bien résisté, défaite en 3 manches pour 11 jabeurs, 6-4, 3-6, 6-4. Pas de deuxième semaine à Melbourne pour la ministre du Bonheur, qui est toujours en quête de son meilleur niveau. Après le match, elle voulait retenir le positif. Sa douleur à l'épaule qui la gênait ces derniers mois semble être de l'histoire ancienne.
Le football à présent, la nomination de Rigobert Song au poste de sélectionneur de la République centrafricaine fait réagir chez lui au Cameroun.
Un an après avoir dit au revoir aux Lions indomptables, Rigobert Song a pris en main le destin des Fauves lundi dernier. Un défi pour l'ancien capitaine des quintuples champions d'Afrique. Et on se réjouit pour lui au Cameroun, où il a laissé un bon souvenir. Reportage à Yaoundé, signé Joël Wadem.
La nomination de Rigobert Song a été globalement bien accueilli dans les milieux du football camerounais. Martin Tungupile, actuel entraîneur adjoint des Lions indomptables, n'est pas surpris du retour de l'ancien capitaine du Cameroun sur un banc de touche.
Il a un grand nom en tant que footballeur. Il a été chez les Lions. On est satisfait qu'il ait eu une nomination. Ça va lui faire un autre défi et ça va rentrer dans le travail de l'entraîneur.
Jean-Claude Pagal, ancien défenseur des Lions indomptables, estime que l'ex-entraîneur du Cameroun sera face à un immense défi.
Au niveau où il était avec le Cameroun, se retrouver en Centrafrique, il a beaucoup de travail à faire parce qu'il y a tout à construire. Je ne sais pas s'ils ont un championnat, ils ont autant de joueurs à l'étranger pour pouvoir rivaliser un peu avec le niveau actuel. On aurait aimé qu'ils trouvent un pays au niveau mondial un peu plus intéressant, dans les 30 ou 40, valide de travail et de se faire plaisir surtout.
Rigobert Song, qui a coaché pendant 2 ans les Lions indomptables, a amené l'équipe en 8e de finale de la dernière Coupe du Monde. Il a par ailleurs qualifié les quintuples champions d'Afrique à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Avant de prendre en main la sélection A du Cameroun, il a entraîné les A' et les moins de 23 ans, mais sans remporter aucun titre. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Rigobert Song a encore le temps de se préparer pour son premier rendez-vous avec les Fauves. Ce sera en mars contre Madagascar dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
En football toujours, la phase de groupe de la Ligue des Champions se clôture ce week-end.
Avec 6 matchs au programme ce samedi, dont le choc du jour, il est entre le Mouloudia d'Alger et les Young Africans, Julien, sur la pelouse des Tanzaniens. En jeu, la deuxième place du groupe A et la qualification en quart de finale. La première est promise à Al Hilal Omdurman, qui rend visite au TP Mazembe, bon dernier. Tout ça se passera à 13h temps universel. Sauver l'honneur, ce sera l'objectif du stade d'Abidjan sur le terrain de Belouizdad, dans un groupe C où le champion d'Afrique en titre Al Ahly tentera dans le même temps à partir de 16h TU de chipper la première place aux Orlando Pirates d'Afrique du Sud.
Enfin, le handball est la deuxième défaite en 2 matchs pour la Guinée qui s'est inclinée vendredi face à la Hongrie.
Les Guinéens qui poursuivent leur apprentissage du très haut niveau pour leur première participation à un mondial de handball. Ils ont pour l'instant subi 2 larges revers, le dernier contre la Hongrie, vous l'avez dit, 35 à 18, ce qui les élimine du tournoi. Il reste malgré tout 1 match à la Guinée pour ne pas repartir Fanny de Croatie. Ce sera contre la Macédoine du Nord ce dimanche.
Merci Baptiste Leduc, à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et à la une ce matin, le feu vert du cabinet de sécurité puis du gouvernement israélien qui ont approuvé cette nuit l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages avec le Hamas dans la bande de Gaza. Il pourra entrer en vigueur demain comme prévu, avec la libération attendue de 3 femmes otages, 150 prisonniers palestiniens. Israël annonce en tout 737 libérations lors des 6 semaines de la première phase de l'accord. En attendant son entrée en vigueur, l'armée israélienne continue de bombarder la bande de Gaza. Les secours palestiniens évoquent plus de 100 morts depuis mercredi. En Ukraine, une attaque russe fait 4 morts à Kiev, la capitale, annonce de l'armée ce matin, alors que le maire avait fait état plus tôt d'une menace de missiles balistiques. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi Yoon Suk-yeol présent au tribunal pour une audience sur la prolongation de sa détention. Le président sud-coréen déchu est resté silencieux depuis son arrestation mercredi. Le premier mandat d'arrêt n'était valable que 48 heures. La justice pourrait approuver une nouvelle durée de 20 jours. Enfin, aux États-Unis, la plateforme TikTok annonce qu'elle fermera demain, à moins d'une intervention du gouvernement. La Cour suprême américaine a validé hier la loi qui interdit la plateforme, sauf si son propriétaire chinois sauf si son propriétaire chinois la vend. Elle doit entrer en vigueur demain, mais la Maison Blanche a annoncé qu'elle laisserait au prochain gouvernement le soin de l'appliquer. Insuffisant, dit TikTok cette nuit. 6h48 à Paris. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse internationale et à la une ce matin, Le Monde selon Trump.
C'est lundi que le président élu sera officiellement investi, mais déjà les journaux se font l'écho des changements à venir. Il y a bien sûr le Proche-Orient et l'accord entre Israël et le Hamas qui portent d'ores et déjà la marque de la future administration Trump, mais ce n'est pas tout. Le Wall Street Journal annonce que le président américain va commencer dès mardi les expulsions à grande échelle. Chicago, nous dit-on, sera l'une des premières cibles. L'opération devrait débuter mardi matin et durer toute la semaine. Les services de l'immigration et des douanes enverront entre 100 et 200 agents pour mener à bien cette opération. Le New York Times, de son côté, précise que des opérations dites de ratissage ont déjà eu lieu en Californie et qu'elles ont activé les craintes des travailleurs migrants sans papier. Une question dont la Repubblica en Italie se saisit également en précisant que ces opérations de ratissage serviront à envoyer un message aux villes sanctuaires, ces villes démocrates qui protègent les migrants, refusant d'aider les autorités fédérales à faire appliquer les lois sur l'immigration. La Repubblica précise aussi que Giorgia Meloni, la première ministre italienne dont la lutte contre l'immigration est l'un des chevaux de bataille, sera l'une des invitées de Donald Trump lundi à Washington.
Le retour au pouvoir de Donald Trump suscite aussi des espoirs auprès d'une partie de la population américaine.
C'est le cas des militants anti-avortement qui demandent aux Américains de signaler les avortements de leur petite amie ou de leur épouse. C'est ce que nous explique le Washington Post. Cette stratégie, précise le quotidien américain, a déjà donné lieu à un procès inédit intenté le mois dernier par le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui a cité des informations de première main provenant d'un père biologique pour accuser un médecin de New York d'avoir fourni une pilule abortive à une femme de la région de Dallas. Cette approche, poursuit le Washington Post, passera une phase plus visible le mois prochain lorsque la plus grande organisation anti-avortement du Texas lancera une campagne publicitaire sur Facebook et X pour interpeller les maris, petits amis et partenaires sexuels des femmes qui ont avorté dans l'État dans le but d'intenter des poursuites contre ceux qui auront aidé ces femmes à mettre fin à leur grossesse.
Et il y a aussi, Catherine, des détenus qui attendent avec impatience le retour de Trump au pouvoir.
Oui, ce sont les insurgés du Capitole qui trépignent d'excitation en attendant leur grâce, titre Libération. Le quotidien français nous rappelle que le 6 janvier 2021, des hordes de supporters de Donald Trump, convaincus que son élection lui avait été volée, ont envahi le Capitole, saccageant au passage ceux qui pouvaient l'être et intimidant les membres du Congrès présents sur les lieux. Un peu plus d'un millier d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison et ont été incarcérés. L'envoyé spécial de Libération a rencontré Nicole Réfit, 52 ans, qui passe ses journées devant le mur de la prison pour soutenir les détenus du 6 janvier. Pour les désigner, elle parle d'otages ou de prisonniers politiques. L'un d'eux appelle sur son portable et Nicole branche le portable sur un haut-parleur. Il s'agit de Dominique Box, 34 ans. « Je rentre bientôt chez moi à Savannah, en Géorgie », dit-il à Libération. « Je suis sur le point de sortir. D'ailleurs, tous ceux qui sont avec moi ici sont sur le point de sortir. » Un autre prisonnier, Robert Turner, 39 ans, assure se sentir formidablement bien. « C'est le retour de l'Amérique », dit-il. « Donald Trump veut que le pays redevienne un modèle de liberté et un exemple pour tous. » À la fin de ces échanges, raconte Libération, les détenus entonnent « beugle bientôt l'hymne national de la première à la dernière strophe ». Puis Nicole le souhaite bonne nuit à toutes ses ouailles et raccroche.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci, à tout à
l'heure. RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Au Congo-Brazzaville, un nouveau grand argentier vient d'entrer au gouvernement et tout le monde semble attendre des miracles de Christian Yoka, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public. Comment expliquer cette attente?
Cette nomination a remis sous les feux des projecteurs le marasme dans lequel semblent baigner depuis bien trop longtemps les finances du Congo, avec une dette d'autant plus insupportable que ce pays, producteur de pétrole, semble avoir vécu au jour le jour oubliant d'investir dans des infrastructures convaincantes et de faire des placements rentables. Qu'ont-ils donc fait des bienfaits dont la nature a douté leur patrie, tels qu'ils se présentent aujourd'hui? Le Congo donne l'impression de s'être endetté pour faire la fête, car en dehors du train de vie luxueux et clinquant des privilégiés du pouvoir, peu de réalisations rappellent aux Congolais que leur pays a longtemps figuré au troisième rang des producteurs subsahariens d'or noir. Les signes d'un pays bien géré se perçoivent à travers les écoles construites pour donner une bonne éducation à la jeunesse, à travers les hôpitaux où se soignent les citoyens, et non dans les facilités que s'octroient les dirigeants et leurs clans.
Ces dirigeants ont tout de même réalisé quelques infrastructures, peut-être n'en font-ils pas assez ?
Denis Sassou Nguesso, faut-il le rappeler, dirige le Congo depuis 1979, avec une petite parenthèse démocratique entre 1992 et 1997. Lorsque l'on s'impose aussi longtemps à son peuple, on se doit au moins de satisfaire ses besoins fondamentaux. Beaucoup en Afrique critiquent le régime de Paul Kagame au Rwanda pour ses insuffisances démocratiques. Mais tout aussi nombreux sont les Africains qui, ayant découvert son pays, en tout cas la capitale, se disent que ce régime autoritaire se soucie au moins du bien-être de sa population. C'est à cette seule et unique condition que les peuples peuvent tolérer les régimes qui s'éternisent, sans quoi l'on n'a que des dictatures stériles. La jeunesse du continent ne peut plus subir durablement des dirigeants qui ne lui apportent rien ou si peu. Dans son discours d'adieu au peuple américain ce mercredi, Joe Biden a insisté sur les dangers de la concentration du pouvoir politique et économique aux mains d'une oligarchie. Cela est valable pour les États-Unis, cela est aussi pour chaque pays d'Afrique. Au moment où Denis Sassou Nguesso arrivait au pouvoir, le président des États-Unis s'appelait Jimmy Carter. De Carter à Biden, l'actuel chef de l'État congolais aura vu passer 8 présidents des États-Unis et 6 chefs d'État français. La liste de tout ce dont manque le peuple congolais n'a d'égal que le temps passé par ce seul et même homme à leur tête.
Ceci dit, Jean-Baptiste, le Congo n'est pas non plus immensément riche.
Il est loin d'être un pays pauvre. Après plus de 40 ans à gérer la manne pétrolière, lorsque l'on vous parle du Congo, l'on n'entend que dettes et quelques maigres infrastructures insuffisantes. La Norvège, par une gestion méticuleuse de son pétrole, a su créer un fonds souverain géré dans la transparence, aujourd'hui le plus important au monde, totalisant l'équivalent de 1 700 milliards d'euros. Ce pays assure une bonne éducation à sa jeunesse, un système de santé efficace pour sa population et réussit des prouesses en matière de transition énergétique et d'innovation. À sa petite échelle, le Congo aurait pu faire de son pétrole un tremplin pour l'avenir de ses enfants. Autre exemple, le Qatar, qui a su tirer profit de ses ressources gazières et pétrolières pour se propulser au rang des pays les plus riches du monde. Il n'est certes pas exemple de critique, mais il a su faire fructifier la manne pétrolière et préparer l'avenir pour les générations futures. En Afrique, le Ghana, qui n'a pas l'immensité des réserves pétrolières du Congo, s'est efforcé par une gestion transparente et responsable de ses ressources naturelles à poser les bases d'une économie plus diversifiée et d'une démocratie irréversible. Le Congo, pour espérer rompre avec le sous-développement intégral, doit commencer par oser le courage de ne pas se tromper de diagnostic.
Merci Jean-Baptiste Placard. Et bientôt 6h en temps universel avant le prochain journal de la musique et les Amazones d'Afrique, le célèbre super groupe malien qui revient après déjà 3 albums. Le titre Wadjo est dans la sélection du mois d'RFI. Les Amazones d'Afrique, leurs compatriotes maliennes Mamani Keïta et la Nigériane Djémi Riyé, le titre Wajo et la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. A tout de suite.
Salut, c'est Youssoundour. Le conte musical de Biriman s'installe au théâtre du Châtelet du 20 au 23 septembre. Venez revisiter l'histoire avec nous.
En partenariat avec RFI et France 24.